Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Grand Dialogue du Studio Tamani. Aujourd'hui, 5 février 2015, s'ouvre une série de 4 émissions sur les obstacles qui se posent à la paix au Mali. C'est une émission qui est initiée en collaboration avec IMRAP. IMRAP, c'est Institut Malien de Recherche Action pour la Paix et Interpeace. Le thème de ce premier numéro porte sur l'effritement des valeurs sociétales. Avec nous donc Madame Bintou Sanankwa, historienne. Madame, bonsoir. Monsieur Richard Touré, qui est traditionnaliste. Monsieur Richard Touré, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Et Monsieur Moussa Touré, qui est chercheur à l'Institut Malien de Recherche Action pour la Paix. Monsieur Touré, bonsoir.
Bonsoir.
Moi, je suis Syra Bachili pour l'animation. Noum Djiré assure les opérations techniques. Studio Tamani. Alors, bienvenue à vous, chers invités. C'est un plaisir de vous accueillir dans ce studio. Le premier volet de ce débat est centré plutôt sur cette problématique société traditionnelle et contemporaine. Qu'est-ce qui a changé? Et je commence par le traditionaliste, Monsieur Richard Touré. Quelle différence y a-t-il entre nos sociétés d'antan et celles d'aujourd'hui?
Moi, je remercie de nous introduire et de nous impliquer dans ce débat. Et bien entendu, nos salutations à tous ceux qui sont à l'écoute. Mais moi, j'aurais voulu que vous commenciez par l'historienne. C'est avec elle que j'ai appris des choses.
Elle va parler également.
Bintou Sanankwa, c'est toi qui dois nous guider.
Non, je pense que on passe de la tradition à la modernité, non?
Oui, c'est pourquoi on a commencé par la tradition.
Vous savez, parler de la tradition, moi, je me suis interrogé parce qu'on a toujours opposé tradition et modernité. Vraiment, est-ce qu'on a raison d'opposer ces deux choses? Je ne connais pas de société au monde qui n'ait pas cette tradition. Et il n'y a aucune société au monde qui n'a pas été confrontée au changement. Que vous soyez en Asie, en Amérique, tout le monde a cette tradition. Les traditions, c'est le fondement, le socle sur lequel on bâtit ce qui est nouveau, ce qui est moderne. Si on oppose les deux, il y a problème. Nous, ici en Afrique occidentale, c'est parce que nous n'avons pas transmis nos traditions. C'est parce que nous ne les connaissons pas assez que nous les opposons à la modernité. Mais les changements économiques, les changements de l'organisation sociale, quand nous parlions de notre histoire du Mandé et autres, on n'avait pas de ville de 2 millions d'habitants. Bamako fait aujourd'hui, on m'a dit 2 millions d'habitants. L'urbanisation change les relations sociales, change les rapports de force économique. On doit se dire que ce nouveau qui vient, il faut le mettre dans l'esprit de notre culture et machin pour pouvoir le gérer. Mais si on le laisse évoluer comme s'il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de choses, alors on se retrouve dans ce qu'on connaît aujourd'hui en Afrique.
Alors, Madame Bintou Sanankwa, vous êtes historienne. On voudrait surtout savoir sur quoi était basée la société d'antan et sur quoi elle est basée aujourd'hui. Y a-t-il une différence, si laquelle il faut nous la donner?
Oui. Excusez-moi. Je pense que la société d'antan et la société d'aujourd'hui, il y a une très grande différence. La société d'antan, je dirais en quelque sorte, c'était nous. Ce que nous avons hérité de nos ancêtres, ce que nous avons hérité de nos pratiques, c'était ça qui nous faisait fonctionner. Maintenant, nous avons subi la colonisation et cela est un facteur très important parce que ça fait que nous avons arrêté d'évoluer de façon endogène. C'est des éléments extérieurs qui sont venus s'intégrer et qui ont pris le dessus. Parce que comme on était un peu plus soumis, on avait un qui était au-dessus et qui commandait les choses. Il fallait donc, la première chose, ça a été l'école. Il fallait apprendre la langue du colonisateur pour compter dans le système. Donc, toutes les personnes qui n'étaient pas dans ce système sont restées de l'autre côté et l'évolution, ils étaient en marche. Donc, moi, je pense, comme Richard a dit, les facteurs qui ont vraiment fait bouger les choses, il y a bien sûr la scolarisation. Ça s'est fait comment? C'était dans la langue de l'autre. C'était dans l'école qui était un bâtiment complètement différent des bâtiments que nous connaissons, en dehors des quartiers que nous habitons, pour bien signifier que ça, c'est autre chose. Ensuite, il y a l'école, il y a l'urbanisation. De plus en plus de gens, ce n'était même plus pour oublier. Les gens venaient quitter les campagnes pour venir dans les villes. Ça changeait complètement les façons de faire et les réseaux traditionnels de transmission de la culture, du savoir, des pratiques, ça n'existe pas en ville. Donc les gens se sont trouvés dans un cadre différent où il n'y avait aucun relais, il n'y avait aucune transmission. Donc c'est un peu des électrons libres. Ouais. Et donc c'est différent de ce qui se faisait quand on était dans un autre cadre et quand on fonctionnait par nous-mêmes avec nos propres valeurs.
Alors, Monsieur Moussa Touré, vous êtes de IMIRAP, on l'a dit au début de cette émission. IMIRAP, c'est l'Institut de recherche pour plus approfondi sur les valeurs sociétales. Alors, est-ce qu'on entend très souvent valeurs sociétales? Est-ce qu'on peut avoir une définition? Quelles sont les valeurs sociétales au Mali?
Bien, merci de nous avoir offert cette opportunité de nous exprimer sur votre plateau. Je parle en présence d'illustres hommes de culture. Je suis jeune chercheur. Mmh. Madame Senonko a déjà ébauché ce que c'est que les valeurs sociétales. C'est l'ensemble des normes, en fait, qui ont fondé la société malienne, qui constituent le ciment même de la société malienne. Nous avons parmi ces valeurs, nous avons les différentes institutions de socialisation, la famille élargie, les classes d'âge, l'éducation communautaire, l'éducation à l'école. Voilà un ensemble, n'est-ce pas, d'éléments qui constituent les valeurs. C'est à travers ces institutions que la vie en société est enseignée aux jeunes générations. Et elle l'a si bien dit, ces institutions ne fonctionnent plus comme ça se doit. Et du point de vue des populations que nous avons consultées, ces institutions ont arrêté de jouer leur rôle. Et la société malienne au stade actuel n'est pas préparée à contenir tous ces facteurs exogènes qui sont venus s'infiltrer, n'est-ce pas, dans nos anciennes valeurs, telles que la famille élargie qui a de nos jours de plus en plus tendance à la nucléarisation. Mm-hmm. Dans le temps, c'était la grande famille, tout le monde était là, tout le monde ouvert à l'éducation de l'enfant. De nos jours, on assiste de plus en plus à des familles réduites, élargies, qui se résument à papa et maman et à la rigueur, à la bonne. Donc des cadres qui ne sont pas tellement appropriés pour l'éducation de l'enfant. De ce fait, de l'analyse des populations consultées, les normes de conduite sociale ne sont pas connues par les jeunes générations. Et de ce fait, ils peuvent enfreindre vraiment au savoir-vivre dans la société sans pour autant se rendre compte. Donc cela pourrait vraiment les faire faire des comportements qui ne sont pas tellement appréciables du point de vue des aînés. Donc il n'y a vraiment pas de consensus entre les différentes générations et à l'intérieur même de la même génération pour pouvoir avoir une société équilibrée de nos jours.
Alors, M. Richard Touré, c'est vrai qu'il y a des problèmes, vous en avez évoqué, mais quel poids ces valeurs sociétales ont dans notre pays? Quel rôle ces valeurs sociétales jouent au Mali?
Bon, moi, valeurs sociétales, nous, on dirait ce qui nous reste comme, on appelle ça molon, la valeur. Notre société avait de la considération pour l'être humain, pour la femme, pour les relations entre les humains. L'argent n'était pas l'essentiel. L'essentiel de la vie, c'était ce que les humains construisaient entre eux et qui entretenait leur vie d'un bout à l'autre. Il a parlé tout à l'heure des classes d'âge. Les classes d'âge avaient pour fonction de préparer les jeunes femmes et hommes à une vie d'ensemble dans la société, et ils accèdent au pouvoir ensemble. Ils se connaissaient. Cela, c'est parce que la dimension du village le permet. Aujourd'hui, l'école aurait dû prendre ce relais. L'école ne l'a pas fait, parce que l'école n'a pas été faite dans cet esprit. S'il y a quelque chose à faire, c'est à nous de l'introduire. Le colonisateur n'avait aucun besoin de ça. Or, nous, on a besoin de ça. Reconstruire les classes d'âge. Pour que les hommes et filles se connaissent et se pèsent, se sous-pèsent. Et n'y a pas de doyenne. Et même si on a tenu à ce n'y a pas de doyenne.
Traduction.
C'est là qu'on voit si quelqu'un est capable de diriger ou il n'est pas capable de diriger. C'est là aussi qu'on évalue les ressources humaines, les femmes ainsi que les hommes. Par contre, l'école française, je pense, aplanit tout ça. On n'en tient pas beaucoup compte. Parce que l'objectif de l'école française, c'était de créer une élite avec laquelle il peut converser, commercer et gouverner. Ce n'est pas pour construire l'Afrique qu'ils ont fait l'école. Ça, il faut que tout le monde soit conscient de ça. Donc, cette école...
On pouvait se passer de l'école ?
Qui ?
J'ai dit, on pouvait se passer de l'école.
C'est pas qu'on pouvait se passer de l'école, mais changer ses objectifs.
Et les adapter à nos réalités.
Nous portons des chaussures fabrication française, mais nous les adaptons à nos pieds. Personne ne se taille les pieds pour mettre dans la chaussure. L'école doit être repensée pour nous servir à nous et construire notre société. Les gens pensent que c'est un effort insurmontable, ce n'est pas vrai. Mmh. Chaque fois que tu ne prépares pas l'homme depuis sa jeunesse, il ne sera pas à te kikamaye, comme on dit. Au recours, les anciens disent qu'il ne faut pas faire danser un enfant en tournant le dos contre toi, parce qu'il ne te reconnaîtra pas quand il va grandir. L'école doit nous servir à reconstruire ce que nous avons plus ou moins relâché. Toutes les sociétés font ça. On n'est pas les seuls.
Alors, Madame Bintou Sanankwa, dans les facteurs qu'on recuse aujourd'hui par rapport à ce problème, il y a la démocratie qu'on cite. Est-ce que l'avènement de la démocratie a joué sur cette perte de repères ? C'est un facteur ?
Voilà, moi, quand on me dit l'avènement de la démocratie, ça me fait un peu sourire. Même si j'ai été le combat de ma vie, c'était le combat pour l'avènement et la consolidation de la démocratie. C'est précisément parce que la démocratie ne fonctionne pas que nous nous trouvons dans cette situation.
C'est une mauvaise interprétation, alors.
Je pense que nous ne sommes pas, aujourd'hui, nous ne sommes pas en démocratie au Mali.
Alors, vous pensez que c'est un facteur qui bloque le processus?
Non, moi, je pense que si on avait une vraie démocratie, ça changerait les choses, ça changerait les rapports des gens d'abord avec eux-mêmes.
Alors, qu'est-ce qui ne marche pas dans notre démocratie aussi, qui serait à la base de cette perte de repères?
Bon, je pense que c'est un problème général. C'est le problème, le grand problème, c'est le problème de la gouvernance. La gouvernance, c'est la gestion des hommes. C'est la gestion des ressources, c'est la gestion du tout, et c'est ça qui ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, rien ne fonctionne. Richard a posé le problème de l'école. Je pense que c'est fondamental. Pourtant, on avait très bien compris très tôt que l'école était un facteur important. Les colonisateurs qui l'ont amené dans sous la forme, parce qu'avant lui, nous avions nos écoles. Ça ne s'appelait pas école, ça ne fonctionnait pas comme ça fonctionne, mais à travers nos classes d'âge, à travers toute la structure de la société, il y avait des apprentissages, on inculquait les valeurs, on inculquait les qualités, on faisait que les générations se prolongeaient avec les valeurs. La forme d'école qui est venue, elle était en fonction des besoins du colonisateur. Lorsque nous nous sommes libérés, nous avons politiquement, pourtant nous avions compris à l'époque, on a dit, cette école-là, ça ne nous convient pas, et on a fait une grande réforme de l'école en 1962, la réforme de 1962, pour un enseignement de masse et de qualité. Parce que d'abord, la première chose de l'école coloniale, c'était une élite, donc c'était un minimum. C'était très peu de gens qui allaient à l'école. Et ces gens qui allaient à l'école, c'est eux qui accédaient aux différentes fonctions. Donc avec l'indépendance, on a dit, il faut que le maximum de gens aillent à l'école. Et puis on a dit, il faut faire la réforme même des programmes pour adapter ça à notre besoin. Parce que qu'est-ce qu'on a appris? Vous, vous êtes jeune, mais moi je suis partie à l'école quand c'était les Blancs qui étaient là. Et moi j'ai appris à l'école que les gens que moi j'ai, en tant que prof d'histoire, j'ai présenté comme des héros nationaux, comme un Soli Alibert ou un Samouri, moi j'ai appris à l'école coloniale que c'était des sanguinaires et des barbares. Donc c'était le point de vue, mais on a fait la réforme de l'école. Je pense que cette réforme qui n'a pas été jusqu'au bout, on a changé effectivement les programmes. Samouri n'était plus un sanguinaire, c'était un héros de la lutte contre la pénétration coloniale dans le pays, beaucoup de choses comme ça, mais on n'a pas été jusqu'au bout. Donc le processus a été interrompu et on n'a pas fait du peuple l'acteur de sa propre histoire. Il y avait un parti unique qui décidait pour tout le monde en matière d'économie. Dans tous les secteurs de l'économie, on décidait pour les populations.
Ce n'est pas facile de couper une historienne.
D'accord, je m'arrête alors.
Quelques secondes de pause et nous revenons après.
Ok, d'accord, je m'arrête.
Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Et oui, vous êtes sollicité pour donner votre avis sur les différentes productions du Studio Tamani via Facebook ou encore Twitter. L'émission que vous suivez est le Grand Dialogue. Ce numéro sur l'effritement de nos valeurs sociétales est un prélude à trois autres émissions dans les jours à venir. Avec nos invités, nous essayons d'expliquer les raisons de cet effritement et comment le réparer plutôt. Richard Toé, traditionnaliste, Madame Bintou Sanankwa et Moussa Touré, chercheur à l'Institut malien de recherche Action pour la paix, ont répondu à notre invitation. Et sans plus tarder, nous allons donc entamer la deuxième partie de cette émission. Et maintenant, nous parlons de la relation perte de repère et le frein au processus de paix. Et je m'adresse à M. Touré, vous qui avez fait une étude sur cette question. Et il ressort de votre étude donc que le manque de repère, la perte de repère est une des raisons du blocage du processus de paix. En quoi l'effritement des valeurs sociétales peut-il être un obstacle à la paix?
Bien, merci Madame Sira. Comme je l'avais dit tantôt lors de ma première allocution, au terme vraiment du processus de consultation de population, la recherche action participative que nous avons y amené, les populations se sont exprimées effectivement sur la crise des valeurs sociétales comme étant un obstacle à la paix. L'analyse qui ressort, c'est que nos valeurs sociétales qui ont constitué le fondement de la société malienne se trouvent aujourd'hui mises à mal par plusieurs facteurs. Il y a les facteurs endogènes, il y a les facteurs exogènes. Les facteurs endogènes, je l'avais cité tantôt, c'est vraiment le branlement même de ces institutions de socialisation qui sont censées préparer l'homme à toutes les étapes de sa vie. De la famille élargie, en passant par les structures communautaires d'éducation, j'avais dit tantôt les classes d'âge, les cérémonies d'excision et de circoncision qui étaient vraiment consacrées pour inculquer vraiment les normes de la vie en société aux jeunes générations. Et ils estiment que c'est effectivement par méconnaissance, c'est-à-dire les jeunes, d'une part, méconnaissent ces valeurs parce que les créneaux de socialisation sont en faillite. Et souvent aussi, c'est par désir d'émancipation qu'il réunit ses valeurs au regard vraiment des facteurs extérieurs qui s'infiltrent dans notre société à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication, à travers l'acculturation occidentale, à travers également le phénomène d'exode, l'exode rural et puis le phénomène de migration. Ça, c'est entre autres des facteurs, n'est-ce pas, qui, de leur point de vue, constituent des obstacles à la paix. Mmh. L'homme est censé connaître la société au sein de laquelle il vit. Donc, s'il n'est pas préparé à vivre au sein de cette société, comme l'a dit un de nos participants, il peut difficilement distinguer le bien du mal. On dit que c'est à travers l'éducation que l'homme apprend à connaître les hommes, c'est à travers l'éducation, n'est-ce pas, que l'homme apprend le sens du respect de l'autre. Donc quand cette éducation n'y est pas, donc il est très difficile de respecter l'autre, de respecter sa culture, de respecter ses principes. Donc quand tu violes la culture de quelqu'un, tu portes atteinte à sa dignité. Quand tu violes le principe de vie de quelqu'un, tu portes atteinte à sa dignité. Donc on vit dans une société de telle sorte que les communautés se méconnaissent. Les communautés se méconnaissent et les efforts qui étaient faits pour permettre cette intégration, je vais citer ici les biennales artistiques, culturelles et sportives, les populations ont beaucoup déploré l'abandon vraiment de ce créneau d'interconnexion culturelle entre les populations. Donc voilà autant de pratiques qui avaient été mises en place pour pouvoir faciliter l'intégration culturelle, mais qui de nos jours, n'est-ce pas, sont abandonnées. Et l'école, je parle de l'école, et il y a eu beaucoup d'enseignants qui se sont exprimés par rapport à l'école. L'école devait normalement compléter l'éducation. C'est la suite logique. Il y a d'abord le processus de socialisation traditionnelle et l'école vient en complément de la formation reçue à la base. Et le modèle occidental dont nous avons hérité n'est malheureusement pas calqué sur la base de nos besoins, sur la base vraiment de nos réalités. Les programmes d'enseignement qui sont enseignés tiennent très peu compte vraiment de nos valeurs. Et l'éducation civique et morale enseignée dans les écoles qui étaient censées de jouer ce rôle de préparation vraiment des élèves à la vie en société, l'éducation civique et morale est très peu enseignée. Et je pense que des efforts ont été entrepris dans ce sens. Et le Forum national sur l'éducation en 2008, l'une des recommandations de ce forum était vraiment de renforcer l'enseignement de l'éducation civique et morale dans les programmes d'enseignement général.
D'accord, Monsieur Richard Touré, merci. Monsieur Touré, Monsieur Richard Touré, vous qui êtes traditionaliste, hein, vous l'avez entendu, la quasi-inexistence de programmes de nos valeurs sociétales, la morale et l'éducation civique qui ont tendance à disparaître du programme de l'enseignement de façon générale. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela?
Moi, je pense que l'école a construit une autre ethnie dans notre pays, l'ethnie qui parle la langue française, au Chiacroadé, en vert. Ce qui fait que ça a créé deux Malis. Il y a le Mali officiel et le Mali réel. Nous sommes dedans. Et le Mali officiel n'entend pas l'autre Mali réel. Et le Mali réel a peine à survivre avec le Mali officiel. Moi, je dis, il y a problème. Je l'ai dit sur tous les toits. C'est pas parce que moi, je ne profite pas du Mali officiel. J'étais à l'école. Je suis parti m'inscrire à l'école. Personne ne m'a amené. Parce que j'ai compris, c'était en 1946, que le monde était en train de changer. Il fallait apprendre cette nouvelle langue. Aujourd'hui, il faut se dépêcher d'apprendre les nouvelles langues qui arrivent. Le monde change, on n'y peut rien. Moi, je dis, si nous voulons comprendre quelque chose, il faut qu'on remette en valeur nos langues nationales. C'est là-dedans que nous allons trouver les ressources nécessaires pour reconstruire notre société qui a été plus ou moins démolie. Nous avons le plan, hein. À Binam et à Plamatounou. Et on peut le reconstruire. Ouais. Et c'est ça l'effort qui nous est demandé. Mais nous sommes tellement paresseux intellectuellement que nous disons non, ça ne sert à rien d'apprendre les 10 langues du Mali. Ça ne sert à rien d'apprendre la langue Bozo, ni d'apprendre la... Non. Mais malheureusement, 90% du Mali produit en langue nationale. Malobi, ce n'est pas une grande langue. On est Kandola. On produit en Bambara, dans la ville de Bamako, au Dabanani. Tout le monde parle la langue nationale. Et nous voulons opposer, nous sommes en train de le faire, opposer cette petite ethnie, nous ne sommes même pas 2% de la population, à 98%. Comment ça? Économiquement, on est en train de les ruiner. Et nous-mêmes, on ne s'enrichit pas, bien entendu. L'argent est devenu facile. Vous vous rendez compte des ravages que ça fait? L'argent est plus important aujourd'hui que les valeurs humaines que nous discutons. Et ce n'est pas tout. On a introduit la religion là-dedans, qui est devenue un instrument aujourd'hui de manipulation. Et ce n'est pas tout. On a transformé nos différences en conflits, alors que c'était de la richesse. Et nous, on était contents d'être avec les peuples, parce qu'ils nous apportaient de la viande, nous, on n'en avait pas. Et on leur donnait du chapalo. Ils étaient contents. Et tout rentrait dans l'ordre. Ouais. On n'échangeait pas avec les fusils. Mmh. Aujourd'hui, celui qui a le fusil, c'est celui qui a la parole. Donc, tu as l'argent, la poudre, et qui a la parole. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut remettre de l'ordre dans ça.
Ouais. Alors, Madame Bintou Sanankwa, est-ce qu'on n'est pas quelque part trop influencé par ce modèle occidental? Certains accusent les bailleurs de fonds d'imposer leur modèle. Est-ce qu'ils sont fautifs? Ce n'est pas nous-mêmes qui sommes fautifs à la base, quelque part?
Ah ben oui, moi je pense que ça, c'est plus facile pour nous, c'est sans effort. Si on peut trouver l'argent sans effort, que l'argent est devenu maintenant la grande chose dont on a besoin, c'est ça. Parce que même les bailleurs de fonds, il y a le proverbe, on sait, nyobi nyobu takambala.
Bien sûr.
Il y a des conditionnalités, il faut les remplir. Bon, si nous nous soumettons à ça, bon, moi, je ne sais pas pourquoi on va accuser les bailleurs de fonds. C'est tout simplement que nous n'avons pas encore trouvé notre voie. Dans les problèmes de gouvernance, nous n'avons pas trouvé notre voie. Nous n'avons pas pu construire une école décolonisée qui nous permette d'avancer. Tant que ces problèmes ne seront pas réglés, je crois qu'on va piétiner longtemps. Nous vivons avec les choses que nous n'avons pas, que nous ne produisons pas et que nous ne pouvons pas avoir. Donc, on vit de façon artificielle.
Bien sûr. Alors, je reviens à M. Moussa Touré plutôt. Alors, vous avez mené une enquête au niveau de quelle région et qu'est-ce qui ressort en plus du facteur éducatif et ce dont vous parlez?
Bien, merci. Nous avons sillonné les 7 régions du Mali et les camps de réfugiés pour dire que nous avons consulté tout le Mali, à l'exception de Kidal où on a consulté les populations de Kidal résidant à Bamako. Et à la conférence nationale que nous avons tenue les mardis, mercredis et jeudi, la semaine écoulée, nous avons fait venir des gens de Kidal. Et en ce moment même, nous planifions une mission pour aller consulter la population de Kidal. Il ressort que, en marge de l'école, il ressort des consultations que la société malienne est en débat face au chemin qu'il doit se faire par rapport à tous ces aspects-là. Il y a vraiment une divergence de point de vue par rapport à ces valeurs. Il y a d'un côté les aînés qui sont ancrés dans cette tradition et de l'autre côté les cadets sociaux, n'est-ce pas, qui sont en quête d'émancipation. Et pour dire que ce manque de consensus, ce n'est pas seulement entre aînés sociaux et cadets sociaux, ce n'est pas seulement une question générationnelle, mais plutôt à l'intérieur même des aînés, il y en a qui ne se retrouvent pas dans ces valeurs-là. Il y a également au sein vraiment des cadets, d'autres aussi qui épousent ces valeurs, il y en a qui ne les épousent pas. Donc il y a vraiment une forte contradiction. Ces valeurs sont vraiment en débat au sein de la société malienne. Et l'autre chose qui ressort, c'est que le Mali est effectivement une terre riche de par sa diversité sociopolitique et ethnique. Et souvent, il y a des gens, des individus, qui instrumentalisent ces fractures sociales, qui essayent de prendre ces différences qui ont constitué la richesse de ce pays-là pour essayer de l'instrumentaliser soit à des fins individuelles ou bien à des fins qui ne sont pas avouées. Et c'est là à tous les niveaux de la société. Quand nous prenons le politique, c'est pareil. Quand nous prenons sur le plan religieux également, c'est pareil. C'est ce qui ressort vraiment des consultations.
D'accord. Nous allons observer quelques secondes de pause et nous revenons pour le troisième volet.
Réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Et oui, le grand dialogue du studio Tamani depuis la maison de la presse sur 24 radios partenaires à travers tout le Mali, également sur YouTube. Focus aujourd'hui sur les valeurs sociétales du Mali en effritement. Quelle explication et quelle solution? Nos invités sont Richard Toé, traditionnaliste, Madame Bintou Sanankwa, historienne, et Moussa Touré, chercheur à l'Institut malien de recherche Action Emploi IMRAP. Troisième et dernier volet de ce débat, c'est la solution. Autrement dit, comment faire pour inverser la tendance? Alors, doit-on faire retour à nos valeurs sociétales? Quel peut être leur intérêt? Monsieur Richard Touy.
Moi, je me pose à l'idée de dire que nous allons retourner à nos valeurs traditionnelles purement et simplement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais aussi, peut-on partir en les ignorant? Ça aussi, ça ne me paraît pas possible. C'est comme si tu allais en voyage sans prendre les précautions minimales. J'ai écouté dans vos interviews que nous sommes embarqués dans le navire des Européens sans prendre des gilets de sauvetage. Et quand le navire coule, nous sommes les premières victimes.
Bien sûr.
Mais les Africains, est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes sur un continent le plus grand, le plus riche, le plus adapté à la vie? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est une richesse inouïe. Mais au lieu de ça, vous faites des pieds et des mains, vous vendez vos chèvres et vos vaches et vous allez prendre des pirogues à Tanger pour aller vous noyer pour un paradis hypothétique. Tu sais, moi je crois que le Seigneur a parlé du paradis. Ce n'est pas le paradis au ciel, hein. Le paradis est sur terre. C'est à construire. Et tout Africain doit se doter de savoir et de savoir-faire pour construire ici le paradis. Vous ne pouvez pas être sur les rives du Niger et dire que vous êtes en enfer. Si vous le faites, c'est vous qui ne savez pas grand-chose. Donc, développons chez nous, chez nos jeunes, le sens d'abord de la nation africaine, le sens du Mali, et le sens de transformer le Mali qui est ici pour nos besoins, pour nous permettre de vivre convenablement. Et ça, c'est possible. Le désert est riche, on peut le transformer. Les hommes ont montré que c'est possible ailleurs. Mais si nous croyons que notre salut viendra du ciel, je crois que le Seigneur ne descendra pas pour construire des ponts. Ça, c'est sûr. Si nous croyons que ça viendra des Européens, je ne crois pas non plus qu'eux, ils viendront construire ça pour nos beaux yeux.
D'accord. Alors, Madame Bintou Sanankwa, vous qui êtes historienne, quel est votre avis sur tout cela? Qu'est-ce qu'il faut-il faire maintenant pour qu'on retrouve nos repères?
Bon, je partage l'avis de Richard, qu'on ne peut pas retourner en arrière, parce que le monde a évolué, il y a des éléments nouveaux. Nous-mêmes, nous sommes autre chose. Mm-hmm. Avant, toujours, nous sommes peut-être une minorité à aller à l'école. Aujourd'hui, nous sommes quand même une minorité de plus en plus importante à aller à l'école, à faire des grands diplômes, à travailler, à vivre dans les villes. Ça a changé. Mais autant, on ne peut peut-être pas tout oublier, parce que quand même, nous avons une très longue tradition dans tout ce qu'on peut faire pour faire avancer le monde. Nous avons gouverné, nous avons construit des empires qui se sont étendus sur de très grands espaces. Nous avons fait vivre ensemble des groupes ethniques différents, des pratiques et culturelles différentes. On sait faire tout ça. Mais en même temps, le monde aujourd'hui, il faut qu'on l'intègre. Moi, ça me fait penser à ce que Amadou Ampateba disait. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, c'est comme un arbre. Un arbre, il y a un moment, il faut l'élaguer. Les branches mortes, les parties mortes, il faut les couper. Ça permet à l'arbre, au lieu de tuer l'arbre, ça permet à l'arbre de grandir, de régénérer. Je pense que ce que nous devons faire, en intégrant ce que le monde nouveau nous apporte, en nous débarrassant des pratiques qui ne nous apportent rien, en maintenant celles qui nous permettent, qui font que nous sommes nous et pas autre chose.
Alors, dans votre étude, M. Touré, sûrement que les populations ont fait des propositions par rapport à cela. Quelles étaient leurs préoccupations pour que les Maliens retrouvent leur repère?
Bien, merci. À cette phase de notre analyse, on se focalisait essentiellement sur les facteurs qui peuvent entraver la paix. Mais au terme de l'analyse des populations, il ressort que la société malienne aujourd'hui est en débat. Et la question qui se pose, c'est de voir comment redéfinir un nouveau contrat social. Il faudrait que les Maliens réfléchissent à la construction des Maliens de type nouveau, j'allais dire, qui répondent aux exigences du moment et aux aspirations vraiment du bien-être de la société malienne. Ça fera l'objet d'une nouvelle recherche, d'une haute phase. Nous allons retourner vers les populations pour qu'ils fassent une analyse pour voir quels sont les voies et moyens pour reconstruire ces Maliens de type nouveau qui puissent prendre en compte les exigences face à la globalisation et, comme l'a dit Mme Sanankwa, tout en gardant le côté positif, le côté constructif vraiment de nos valeurs. Lors des consultations, il y a un jeune qui s'est exprimé là-dessus. Il dit les valeurs sociétales, certes, mais ce n'est pas toutes nos valeurs qui sont utiles. Donc, il faudrait que les Maliens soient dans la logique de prendre ce qui est bon de nos valeurs et laisser de côté ce qui pourrait être nuisible vraiment pour le bien-être des Maliens. Concilier les deux, concilier les exigences du moment tout en gardant l'essentiel vraiment de nos valeurs.
Alors, M. Richard Touré, vous avez parlé du système éducatif qui est en train d'oublier un peu nos valeurs sociétales dans le programme de l'enseignement. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que ces valeurs sociétales reviennent dans l'enseignement, qui est important quand même?
Je veux me contenter de dire ce que Mgr Luc Sangaré, paix et salut à son âme, on dit Rabbi Tienso. Il nous a, Ousmane Sy et moi, il nous a reçus dans son bureau, il nous a dit ceci. C'était à l'époque où le Mali était aux prises avec les feux, le feu de la ville, c'est pas le feu de brousse, hein, de l'AIM, qui brûlait tous les matins jusqu'à midi. Et nous, on arrêtait de travailler. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire mon chant. C'est parce que je vois qu'il n'y a plus de passage. Mais la question, c'est quoi? Il dit, ceux qui sont en train de se battre avec vous, ils ne voient pas le soleil décliner. Ils ne savent pas où va le soleil. Donc, c'est le soleil de midi. Vous ne vous entendrez pas tant que le soleil n'a pas basculé vers l'ouest. Maintenant, allez chercher des enseignants qui sont encore en bonne santé, qui, eux, connaissent le Mali, et donnez-leur les petites classes. Et eux-là, ils n'ont qu'à éduquer les plus petits qui sont au lever. Comme le soleil s'élève, eux, ils sauront dans quelle direction va le soleil. Si vous réussissez ça, alors les autres, quand le soleil aura changé, sera 3 heures ou 5 heures, alors vous vous entendrez. Ils sauront où va le soleil. Mais sinon, on ne s'entendra pas. Sinon, moi, j'ai dit, le Mali, nord ou sud ou qu'est-ce que nous ne changeons pas? Ce grand fleuve-là, il va dans l'est. Personne ne dit le nord. Le nord n'est même pas dans notre langue. Il va au Kronfède. Ce fleuve-là, toutes les eaux qui tombent ici vont irriguer le nord. Personne ici ne s'oppose à ça. Vous ne voyez pas la générosité de la nature qui nous unit? Ah non, on prend le fusil, on veut régler ça. Ça, c'est quoi, ça? L'école doit nous aider à reconstruire ce qu'on n'a pas pu faire au lendemain de l'indépendance. On dit qu'on est venu donner d'âme fait à Ebola au défait. On enlève l'épine par où il est entré. Sinon, si tu fais autre chose, tu vas compliquer le mal.
C'est sûr. Alors, Madame Bintou Sanankwa, on va continuer avec vous sur les solutions que vous proposez par rapport à ça. Quelle place faudrait-il donner à nos valeurs sociétales au sein de l'enseignement?
Moi, je pense que tout notre problème, il nous faut une réforme de l'enseignement une réforme de l'école, mais une réforme structurelle. Pas les petites. Pourtant, je pense que le problème avait été très bien perçu et très bien posé. En 1962, les acteurs de la réforme de 1962 avaient politiquement, de façon pédagogique, ils avaient compris la place de l'école. Peut-être que le processus, malheureusement, s'est arrêté avec le coup d'État de 1968. Avant ça, il y a eu un point pour voir la réforme, ce qui a marché, ce qui n'avait pas marché. Peut-être qu'elle avait été trop ambitieuse, mais on avait fait le diagnostic de ce qui n'avait pas marché. Malheureusement, le processus a été interrompu et finalement, l'école a continué comme c'était. Je crois que tout passe par là parce que c'est dans la tête des gens que ça se construit. Et ça, ça se fait à l'école avec des vrais enseignants. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons, je pense que nous l'appelons abusivement école. Nous n'avons pas d'école et nous n'avons pas d'enseignants. Nous avons des gens qui vont dispenser des cours dans les établissements, mais nous n'avons pas de l'école qui prépare l'homme de demain, le citoyen de demain. Tout ça, c'était dans, ça avait été bien compris en 1962. Donc, toujours, ce n'est pas de la nostalgie, dire un encore retour au passé, non, mais la reconstruction commence par l'école.
Est-ce qu'on prévoyait cela déjà en 1962?
En 1962, oui, la réforme disait tout ça. Un esprit nouveau, un Malien décolonisé. Et on avait vraiment, politiquement, on avait très bien perçu. Peut-être qu'à l'époque, les ressources humaines n'étaient pas suffisantes. Et puis surtout, il n'y a pas eu de continuité dans le processus. Le processus a été interrompu en cours de route. On a appelé en 68... lorsque les militaires sont venus, qu'il y a eu un civil, bien sûr, qui était ministre de l'Éducation, on a tout de suite parlé de la contre-réforme de Yaya Bakayoko. On revenait déjà sur un certain nombre de choses sans prendre l'ensemble du processus. La situation n'a jamais été rattrapée. Il faut quelque part qu'on s'arrête et qu'on reparte de nouveau.
D'accord. Imirap, je l'ai rappelé au début de cette émission, nous a aidé à initier cette émission en collaboration avec Interpeace. Imirap a beaucoup de projets. Imirap veut instaurer le dialogue entre les Maliens. Comment vous comptez vous y prendre par rapport à tous ces problèmes-là?
Bien, merci. Je pense qu'on a déjà amorcé ça. Madame Sanankwa était à la conférence nationale de validation des résultats sur la recherche participative que nous avons eue, la recherche participative sur les obstacles à la paix au Mali. Notre processus consiste à travers des espaces de dialogue, à travers des focus groups qui regroupent toutes les sensibilités, d'amener les gens à échanger, à dialoguer par rapport aux problèmes qui mènent la société malienne. Ils échangent et au terme des échanges, c'est capitalisé, n'est-ce pas, à travers les prises de notes, à travers l'audiovisuel, et c'est à la suite de ça que tout ceci, n'est-ce pas, est traité pour être consolidé dans un rapport et à travers un film documentaire. Je pense que l'intérêt de notre approche, c'est que c'est les Maliens eux-mêmes, nous en tant que chercheurs, notre réflexion n'intervient pas dans la recherche que nous faisons. Nous gardons le maximum possible la neutralité, on est neutre, on rapporte les propos des populations tels que formulés. Ainsi, je dirais que Mme Sanankwa a la même lecture que les populations consultées à la base. Si je peux paraphraser l'intervention d'un enseignant
rapidement,
d'un focus group, il dit « si on change le nom du ministère de l'Éducation, ça va lui plaire et de le transformer en ministère de l'Instruction. » Parce qu'il dit que le règlement même qui régit l'école ne permet pas d'éduquer l'enfant.
Merci, M. Touré. C'est intéressant, mais nous sommes au terme de ce grand dialogue consacré à l'effritrement des valeurs de la société malienne. Richard Touré, traditionnaliste, Mme Bintou Sanankwa, historienne, et M. Moussa Touré de IMRAP nous ont aidés à comprendre le pourquoi de cet effritrement. Ils nous ont également fait des propositions de solutions pour le retour à nos repères. Nous espérons que vous avez eu un intérêt pour ce débat qui vous a été présenté par Syra Bachili. À la réalisation, vous aviez Ousmane Diadé Touré, La mise en onde était assurée par Nouhoum Djiré. Vous aviez à la régie vidéo Monsieur Bagayogo. Pour ceux qui suivent donc ce débat sur YouTube, merci de nous avoir suivis. Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halou de Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.